amadoué les loups, aimer le poids des choses. Mais je suis dans les pentes là fatales.
Rediffusion d'une émission Principe Actif. Une rediff, quoi.
Qui c'est qui fait la vaisselle? Faut pas que ça se perde. Qui c'est qui doit rester belle? Les mains dans la merde.
Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera.
Vous mariez pas les filles, ne vous mariez pas.
Histoire d'elle.
Ces femmes parfaites,
de mauvaise vie,
libérées,
soumises,
d'esprit,
fatales,
tatouées,
douces,
savantes,
de lettres,
faciles,
fidèles,
bonnes femmes,
au foyer,
modernes,
citoyennes,
de caractère,
combattantes.
Écoutez-nous.
Nous vous parlerons d'elles,
de vous,
et des autres.
Le premier dimanche de chaque mois à 13h.
Eh bien, bonjour à tous.
Bonjour à tout le monde.
Voilà pour cette nouvelle émission où on va parler de piraterie.
Wow.
Mais bien sûr, la piraterie concernant les femmes. Alors, nous avons donc des réels, hein, comme Barbe Noire, qui est un pirate anglais, ou Barbe Rousse, qui est un corsaire de l'Empire Ottoman. Alors, on en a des fictifs aussi, hein, tels que Long John Silver, dans le roman de L'île au trésor, de Robert Louis Stevenson, ou encore le capitaine Hook, dans Peter Pan, de G. Berry. Les écumeurs de mer, qu'ils soient flibustiers, pirates, corsaires, boucaniers, étaient quand même essentiellement des hommes dont le pied-à-terre était l'île de la Tortue, et puis plus tard Saint-Domingue.
Ouais. Bah, on peut peut-être préciser un petit peu, là, du coup, de manière générale, hein, les corsaires, les pirates, les boucaniers.
Le petit vocabulaire le petit de vocabulaire. La piraterie.
Voilà. Alors, les corsaires, ce sont des civils qui sont mandatés par l'aide de course délivrée par les autorités de leur nation. Et en temps de guerre, ils combattent de façon indépendante avec un statut équivalent aux militaires quand même. Les navires sont sous pavillon ennemi pour tromper l'ennemi, mais sans être attachés à un état-major tout en obéissant aux lois de la guerre. Les pirates, bien au contraire, ce sont des bandits.
Ah là là, mon Dieu.
Voilà, la piraterie n'a pas disparu avec la fin de la marine à voile et elle est toujours pratiquée d'ailleurs sur les océans, notamment au large de la Corne de l'Afrique, où des navires de guerre protègent le commerce maritime sur une zone assez étendue, aussi étendue que le continent européen. Donc voilà, c'est des corsaires et pirates, c'est très différent.
Il y en a un qui est mandaté et l'autre qui est à son propre compte.
Voilà.
Alors, un boucanier, lui, il est à l'origine un coureur des bois de Saint-Domingue qui chassait les bœufs sauvages pour en boucaner la viande, c'est-à-dire la sécher à la fumée sur le boucan. Par extension, le terme de boucanier a désigné un écumeur de mer, un pirate, après que les boucaniers se soient associés aux flibustiers sous le vocable de frères de la côte. Mmh. Et quant aux flibustiers, c'était des marins au statut quelque peu ambigu, à mi-chemin entre les corsaires et les pirates.
Ouais. Donc, le monde de la piraterie, comme tu l'as dit, c'était essentiellement masculin. Les codes pirates interdisaient la présence de femmes à bord.
Mais pas de trouble à bord, quand même.
Pas de trouble à bord. La compagnie féminine était appréciée pendant les escales, mais pas en mer. Donc les pirates n'ouvraient pas grand les bras aux femmes à bord, mais parfois elles pouvaient être présentes et si elles étaient compétentes, ça pouvait être toléré. Mais ce n'était pas la règle, hein. Il y avait très peu de femmes à bord. Et pourtant, certaines femmes, éprises de liberté, souhaitant un peu s'extraire de leur vie plan-plan sur terre, certaines femmes ont pris la mer. Hein. Et en outre, au XVIIIe siècle, certaines femmes se déguisaient en hommes pour partir en mer.
Et c'était plus pratique sûrement pour le travail à bord, monter les voiles.
Oui, puis pour se faire passer pour un homme, pour être tranquille, quoi.
Pour
se faire virer par-dessus bord. Et alors, ce sont quand même des figures au destin assez extraordinaire, parce que c'était pas... pas facile de prendre cette décision de se déguiser en homme pour aller sur un bateau de pirates. Et certaines femmes se sont montrées impitoyables, courageuses, intelligentes. Et il y en a quelques-unes qui ont vraiment su s'imposer et voire dominer ce monde de la piraterie. Donc on va faire le portrait de quatre femmes pirates.
Tout à fait.
Dans des régions différentes.
Alors on va tout d'abord vous présenter Anne Bonny et Mary Reed. Voilà, donc alors en fait du coup mon frère qui a une grande bibliothèque concernant les pirates, tout ce qui se passe en mer et tout ça, m'a filé un DVD qui s'appelle Les Flibustiers des Mers, La Flibustière des Mers, je vais y arriver, voilà. Et donc, où il y a une présentation sommaire d'Anne Bonny et de Mary Reed. Alors, je vais vous passer la présentation, mais bien sûr, nous, on va développer largement le thème après.
En octobre 1720, après deux années passées à bord de son navire, à piller et à semer la terreur sur les eaux des Caraïbes, le redoutable pirate anglais Jack Rackham, surnommé Calico Jack pour son goût d'évêquement en calico, fut capturé au large de l'île de la Jamaïque par les autorités anglaises. Manque de chance, au moment de l'attaque, il était ivre de rhum et pouvait à peine tenir debout, n'arrivant même pas à hisser son célèbre pavillon, un crâne sur deux épées croisées. C'est donc son équipage, commandé par deux jeunes flibustiers, qui dut faire face à cette attaque surprise, réussissant à tenir tête avec courage aux représentants de la couronne pendant plus d'une heure. Après ce combat acharné, se voyant battu, les pirates finirent par se rendre. Et quelle ne fut pas la surprise des autorités lorsqu'ils découvrirent que sous les habits masculins des deux intrépides se cachaient deux jeunes femmes. Leurs noms étaient Mary Reed et Anne Bonny.
Donc voilà la présentation de ces deux jeunes femmes. Alors on va tout d'abord parler de Anne Bonny. Alors, elle a été élevée dans une bonne famille irlandaise. Son père l'emmène aux États-Unis avec lui, dans une plantation en Caroline du Sud. Alors, elle est tête brûlée, hargneuse, capricieuse. Et donc, elle va quitter le domicile à 16 ans quand elle rencontre un pirate. Alors, elle rêve d'une aventure vibrante et romantique, mais son mari est en fait un informateur qui dénonce les pirates des Antilles. Elle le quitte alors pour un autre, un vrai bandit des mers, cette fois-ci.
Et Mary, par contre, Mary Reed, c'est une enfant illégitime qui est née en Angleterre, et sa mère l'a déguisée en petit garçon pour obtenir de sa belle famille une petite rente. Donc Mary grandit dans la peau d'un autre, en fait, et la supercherie ne prendra fin qu'à ses 13 ans. Donc deux vies très différentes.
Oui, très différentes.
Enfin, deux enfances très différentes.
Mais leur motivation pour entrer dans la piraterie, sont bien ancrées à toutes les deux. Alors Anne Bonny, ça paraît presque comme un caprice. On sait qu'elle avait un caractère épouvantable, elle était volcanique, elle a eu une enfance gâtée avec un père qui l'aimait beaucoup, qui l'a éduquée dans l'aisance. Et Mary Reed, c'est tout à fait différent. Chez elle, se faire passer pour un homme a toujours été une question de survie. Alors quand elle n'est pas partie, elle n'est pas partie en se disant « je vais devenir flibustière, pirate des Antilles », pas du tout. Elle a en fait été plongée dans ce milieu-là contre son gré.
Alors, le destin des deux femmes à l'âge adulte va être intimement lié. Lié à celui d'un pirate célèbre, John Rackham. Rackham, donc, c'était un homme élégant, comme tu disais tout à l'heure, vêtu d'étoffes taillées dans du calico. Il était distingué, ses vêtements étaient colorés. Et donc, on l'appelait Calico Jack. Et il s'est engagé sur un navire de guerre. Et puis, il a réussi à convaincre l'équipage de mener une insurrection pour renverser le capitaine et mener finalement une attaque contre un navire français. Alors, il rafle un butin assez satisfaisant, et donc ça a permis de convaincre Rackham et ses hommes de se faire pirates et de se battre désormais pour eux-mêmes.
Voilà, en tant qu'à faire, risquer
autant
sa vie,
récupérer l'argent
et ramasser un trésor.
Les trésors plutôt que de les redonner à l'État.
Et donc, alors qu'il faisait escale à New Providence, à un port des Bahamas, Calico Jack rencontra dans une taverne Anne, une jeune femme déjà mariée à un pirate de petite envergure du nom de James Bonney. Anne, que l'on disait jolie femme, intelligente, quoique d'humeur épouvantable, avait l'habitude de prendre pour amant les boucaniers qui faisaient escale à New Providence. Mais la passion brûlante entre Calico Jack et elle la poussa à quitter James Bonney et à embarquer avec son amant à bord d'un navire volé. Souhaitant dissimuler sa véritable identité, elle se coupa les cheveux courts, s'habilla en homme et se fit désormais appeler Adam Bonney. À bord, personne ne soupçonnait qu'Anne était une femme. Elle se battait avec courage, maniait le sabre et le pistolet avec adresse et s'acquittait de toutes les corvées qui lui incombaient. Lors des attaques de navires, elle avait la charge de fournir la poudre au canon aux canonniers.
Bon, alors on va arriver quand même à la rencontre entre Anne Bonney et Mary Read. Bon, il y a pas mal de légendes. Hein.
Oui, c'est ça, il y a plein d'histoires différentes.
On vous raconte des trucs, mais après, c'est des on-dit. Hein. C'est pas gravé dans
tout,
le marbre.
Tout est pas, voilà.
Alors, la plus sérieuse d'entre elles, c'est la suivante. Mary Read, vêtue en homme, se trouvait à bord d'un superbe navire de la Compagnie des Indes qui fut attaqué par Rackham et son équipage. Comme le voulait la coutume, une fois le navire pris, le choix fut donné aux prisonniers soit de s'engager dans la piraterie, soit...
Passer par-dessus bord,
ou si on a une quelconque valeur, être échangé contre quelques sous, enfin bref. Alors, Mary a accepté en se présentant sous le nom de Willie Read. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée sur le bateau de l'autre femme pirate.
Voilà. Bon, alors on vous propose d'écouter un petit bout de la BO, de la Flibustière des Antilles. Donc c'est une musique de Frank Waxman et c'est un film qui a été réalisé par Jacques Tourneur avec Jean Peters et Louis Jourdan en 1951.
Oh là, c'est vieux.
Eh oui. Thank you. voilà. Enfin, vous voyez, c'est la musique
vous
de, l'aurez
des compris,
films.
La
de
mer, pirates, la tempête,
de l'époque,
la tension qui monte avant l'attaque.
Voilà, c'est ça. Alors, Mary, quant à elle, bah, elle s'est pris bientôt d'un des marins ayant survécu à l'une des nombreuses attaques menées par Agam. Donc, c'est un charpentier qui s'appelle Matthew. Alors, Mary se serait bien plu auprès de cet homme doux, si doux d'ailleurs que le reste de l'équipage en fera rapidement la risée du Revenge, donc c'est le nom du bateau. Là, des nombreux quolibets qu'il subissait sans cesse, Matthew défia l'un des marins qui le tournait en dérision. Et craignant pour la vie de son époux, Mary provoqua à son tour le même homme, fixant l'heure de leur duel avant celui de Matthew. Et selon la règle du code pirate, on ne se bat pas entre soi à bord, les duels doivent être réglés à terre, au sabre et au pistolet. Et donc, au petit matin, tout le monde se retrouve sur la plage. Mary tire la première et le pirate s'écroule. Voilà. Puis, elle l'achève au couteau, quand même, évitant ainsi à son mari d'avoir à se battre. Alors, plusieurs récits mentionnent qu'avant d'achever les hommes qu'elle venait de vaincre, Mary ride leur dévoiler sa poitrine pour leur montrer qu'une femme pouvait se battre tout aussi bien qu'un homme.
Oh mon Dieu.
Ah, voilà, ça.
C'était quelque chose, hein.
Donc, les prises de bateaux de commerce à répétition leur attirèrent bientôt les foudres, évidemment, de la couronne d'Angleterre.
Ah oui, il y a un manque à gagner, là.
Voilà, qui n'était pas évidemment très content. Hein. Alors, un décret fut publié le 5 septembre 1720 par le gouverneur des Bahamas, déclarant que Jack Rackham et son équipage devaient être capturés et jugés. Le capitaine anglais Charles Barnett fut envoyé sur leur trace et fut chargé de leur capture.
Ah. Vont-ils être capturés? La suite au prochain épisode? Non, on va en parler. Alors, après des dizaines d'abordages, des tonnes de thé volé, un petit butin accumulé, le Revenge, sang de tortue sur la poupe, se fait arrêter. Au matin du 21 octobre 1720, les troupes de Barnett aperçurent le Revenge qui avait jeté l'ancre dans une crique retirée. À bord, les marins n'ont rien vu venir et parce qu'ils avaient fait la fête la veille, ils étaient complètement ivres, endormis, dormaient vraiment à point fermé quand le navire de Barnett s'est approché doucement. Et donc l'équipage a été pris par surprise. Alors, les seuls à faire preuve de bravoure, bah, c'est les deux femmes qui peut-être avaient moins bu.
Oui, sans doute.
Puisqu'elles n'avaient pas l'air de dormir. C'est Anne et Mary qui ripostèrent quand le reste de l'équipage se ruait dans les cales. En plus, ils sont allés se cacher. Bon, bref. Bien que très courageuses, bien sûr, elles n'ont pas pu tenir tête à tous les Anglais qui prenaient le bateau d'assaut. Et l'équipage fut fait prisonnier, envoyé en Jamaïque. Les deux femmes parurent séparément devant un juge, et John également, et tous les trois ont été condamnés à mort. Alors, on sait, grâce au procès qui a été consigné, enfin ça on a des traces écrites hein, par contre, Anne et Mary ont alors révélé qu'elles étaient enceintes. John Rackham fut pendu. Et alors que le bourreau était en train de lui passer la corde au cou, Anne aurait crié, elle assistait à la scène, elle aurait crié « Si tu t'étais battu comme un lion, tu ne mourrais pas comme un chien. »
Oh, bon. Quelle belle parole.
Oh mon Dieu. Ouais. Bref. Enfin voilà, ça montre son caractère en tout
voilà,
cas.
Un peu
entier et un peu excessif peut-être.
Alors Marie, oui. Quant à elle, elle mourut quelque temps après, en avril 1721, en prison, emportée par une fièvre jaune ou par les conséquences d'une fausse couche. Voilà, on n'est pas très sûr
pas
sur le motif
de son décès. D'une infection très certainement voilà. En tout cas.
Dans le registre des enterrements de la paroisse de Sainte-Marie, il est écrit « Mary Read, pirate ». Le destin d'Anne est beaucoup plus incertain. La plupart des historiens ne parviennent pas à retracer son histoire jusqu'en 1724, soit 3 ans après le procès. Si aucun écrit ne stipule une quelconque exécution, il n'est pas non plus question de libération. On pense généralement qu'elle a été libérée grâce à l'intervention de son père, qui était quelqu'un d'important dans les colonies et jouissait d'une grande influence. Même s'il l'avait déshéritée, elle restait sa fille et il a probablement dû intervenir et payer pour la faire libérer. Mais récemment, un internaute a retrouvé dans les registres des enterrements de la paroisse de Sainte-Catherine de Jamaïque la mention de l'enterrement d'une certaine Anne Bonny en novembre 1733, soit 12 ans après le procès. Mais il n'est pas précisé qu'elle était pirate. Et il paraît étonnant qu'elle ait pu rester pendant 13 ans à l'endroit où elle avait été condamnée. Il peut très bien s'agir d'un homonyme aussi.
On est sûr de rien.
Bon, mais là, on va quitter donc les eaux des Caraïbes pour plonger dans celles de la Méditerranée, vers d'autres pirates. Alors, on va vous mettre une petite musique orientale.
Rediffusion d'une émission Principe Actif. Une rediff, quoi.
Alors, nous voici dans l'ambiance de musique traditionnelle orientale et nous allons donc parler de Saïda Alloura, reine de la ville de Tétouan, au Maroc, et femme qui a régné pendant 30 ans, lutté contre les Portugais et recouru à la piraterie. Elle est considérée comme l'une des personnalités les plus importantes de l'Occident musulman de l'époque moderne. Elle est connue pour la lutte qu'elle mène contre les Portugais qui occupent Ceuta et pour son alliance avec le corsaire turc et gouverneur de la régence d'Alger, Harouj Barberousse, quand même. Alors son véritable nom, c'est Aïcha El Alami. Et Saïda Alloura, c'est une expression, ça signifie pratiquement la dame libre en arabe. La dame libre, ça se dit Saïda Alloura. Elle naît vers 1485 au sein d'une famille musulmane éminente, les Banu Rachid, qui ont des origines maroco-andalouses. Elle grandit au royaume de Grenade, mais en 1492, lorsque les souverains d'Espagne, Ferdinand le Catholique et Isabelle la Catholique, conquièrent le royaume de Grenade vers la fin de la Reconquista, Saïda et sa famille fuient et vont s'installer au Maroc, où son père fonde la ville de Chefchaouen, dont il devient le prince, et ville indépendante du sultanat des Ouattassines. L'enfance de Saïda s'y coule tranquillement, mais elle restera marquée toute sa vie par cet exil forcé. Moi, je pense qu'il y a, il y a du ressentiment même, certainement. Dès l'enfance, elle est promise à un futur